Je voudrais, avant de commencer, vous remercier aussi pour cette invitation d'une part, et puis bien, la joie d'avoir partagé ce week-end avec vous. J'ai pu discuter avec plusieurs, faire la connaissance de plusieurs. Je crois que je ne connaissais personne à part Nicolas et Gabriel avant. Alors il y a Pascal, je crois, qu'on en avait déjà parlé, mais il n'était pas là quand je suis arrivé. En tout cas, je ne me souviens pas l'avoir vu, mais il est déjà venu chez nous à Saint-Denis. Et donc, vraiment, c'était une joie pour moi de partager ces instants, de partager la parole avec vous. J'ai reçu beaucoup dans les partages aussi. Je repars avec beaucoup de reconnaissance à Dieu pour vous. On va continuer troisième partie de notre petite série sur la reconnaissance. Alors, j'ai intitulé la méditation de ce matin « Le défi de la gratitude ou de la reconnaissance dans les circonstances difficiles ». Donc, le défi de la reconnaissance dans les circonstances difficiles. Je remets toujours mon truc à... un aspect qu'on n'a pas beaucoup vu, c'est celui des circonstances difficiles. On a chanté tout à l'heure, toujours content par la pluie ou par le beau temps. Ça m'a rappelé de bons souvenirs. Hein. Ça m'a ramené 50 ans en arrière lorsque je chantais ça à l'école du dimanche. Hein. Donc c'est pas un jeune cantique, hein, mais ça m'a fait beaucoup de bien de l'entendre. Les enfants ont exprimé à chaque fois, c'est pas si vous avez fait attention, mais les raisons pour lesquelles on loue Dieu. Elles étaient toutes positives. Et c'est normal, c'est comme ça que l'on fait habituellement. Pourquoi? Parce que je crois que c'est plus facile pour nous de croire que les circonstances heureuses, en tout cas celles qui nous procurent des sensations agréables, viennent de Dieu. Hein. Lorsque le train arrive à l'heure, on est content, on dit merci Seigneur pour cela. Lorsqu'il fait beau, on dit ah, magnifique ce temps. Merci d'avoir créé le soleil, etc. Et puis, si les choses sont dans l'autre sens, il est plus difficile pour nous d'accepter que ça puisse venir de Dieu. Alors, on accepte la pluie, mais quand on commence à rentrer dans le train qui arrive en retard, ou les 2 heures, les blocages, etc., les embouteillages dans la circulation parisienne, et puis quand ça touche à notre santé, la maladie, ou les choses comme ça, les accidents, ou les personnes que Dieu prend dans notre entourage, c'est plus difficile pour nous de croire que ces choses viennent aussi de Dieu. La Bible dit pourtant que le malheur n'arrive pas dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur. C'est un verset qui m'a toujours troublé, hein, parce que c'est dans Amos, je n'ai pas la référence exacte. Bien sûr, Dieu, la Bible dit que Dieu ne fait pas le mal. Hein, si on peut pas, dans le sens, hein, Dieu, on peut pas, que personne, quand il est tenté, dise que c'est Dieu. Hein, l'apôtre Jacques, il dit cela. Mais il est important de comprendre néanmoins ce que l'apôtre Paul dit quand il dit, par exemple, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et quand il dit « toutes choses », c'est « toutes choses », c'est-à-dire sans exception. Qu'elles soient bonnes, qu'elles produisent des sensations agréables, ou qu'elles n'en produisent pas, ou que ce soit désagréable. Il dit la même chose, dans ce que je vous ai lu, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18, il dit la même chose en Éphésiens 5, 20, il dit « Rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses. » Thessaloniciens dit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses », Éphésiens dit « Pour toutes choses ». Même, c'est Dieu pour cette circonstance particulièrement difficile, il dit « Et rendez grâce à Dieu donc continuellement pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Et donc, ce que je voudrais considérer ce matin, c'est cette, à partir de ce verset, Thessaloniciens 5, 18, c'est le fait, le défi vraiment de rendre grâce à Dieu, même dans les circonstances qui sont des circonstances difficiles. Alors, avant d'avancer dans cela, j'aimerais voir, premièrement, que la gratitude ou la reconnaissance est tournée d'abord vers Dieu, c'est jamais assez de le dire, et par Jésus-Christ. Le verset dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et Éphésiens dit, rendez grâce continuellement à Dieu, d'accord, pour toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Et il est important de considérer cet aspect-là. On ne vient pas à Dieu directement. Pas possible. L'homme pécheur ne peut pas s'approcher de Dieu parce que Dieu est saint. L'homme est pécheur. Il a besoin de ce qu'on appelle un prêtre. Il a besoin d'un intermédiaire. Et cet intermédiaire, bien sûr, c'est Jésus-Christ. C'est ça que quand les gens disent, moi je loue Dieu pour tout ce qu'il m'a donné, tu dis très bien, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Comment est-ce que tu t'adresses à Dieu? Je lui dis, oui, mais la Bible dit qu'on rend grâce à Dieu par Jésus-Christ. Le Dieu à qui on rend grâce, c'est le Dieu que Jésus-Christ nous a fait connaître. C'est parce que Jésus-Christ a dit que ce Dieu-là est un Dieu d'amour et que son amour s'exprime dans le fait qu'il a envoyé son Fils à la croix pour mourir pour nos péchés, que l'on peut s'approcher de lui. D'accord? On peut, le voile du temple, rappelez-vous dans les évangiles, a été déchiré lorsque l'œuvre de Christ a été accomplie à la croix du Calvaire. Quand il a dit tout est accompli, à ce moment-là, le voile s'est déchiré. Et puis, nous pouvons nous approcher de lui, c'est ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Approchons-nous donc avec assurance. On peut donc s'approcher parce que l'œuvre de Christ a été accomplie, parce que Jésus-Christ a accompli l'œuvre à la croix. Et je voudrais souligner cet aspect entre le fait de rendre grâce et Jésus-Christ. Éphésiens, donc je l'ai déjà lu, Éphésiens 5, mais écoutez ce que dit Colossiens 3, 17, il dit, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant, écoutez bien ça, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » On rend des actions de grâce à Dieu par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ. Il n'y a aucune possibilité d'aller à Dieu, ni d'offrir quelque chose à Dieu, en écartant Jésus-Christ. Et ça, c'est souligné dans l'Écriture. Écoutez ce que 1 Pierre 2, versets 4 et 5, nous dit. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5, il dit, « Approchez-vous de lui, lui qui est la pierre vivante, qui a été rejetée par les hommes, mais qui a été choisi devant Dieu. » Il parle de Jésus-Christ ici. C'est lui qui est la pierre rejetée, la pierre vivante. Il dit, « Et vous-même, comme des pierres vivantes maintenant, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, le fruit de lèvres un peu, agréables à Dieu, comment ? Par Jésus-Christ. » Par Jésus-Christ. Et puis un dernier, on pourrait en trouver plein, mais un dernier, dans Hébreux chapitre 13 et au verset 15, il dit, par lui, c'est-à-dire par qui? Alors si on lit ce qui est écrit avant, on voit bien qu'il parle de Jésus-Christ. Donc par Jésus-Christ, offrons à Dieu, par Christ, offrons à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc Dieu impose le moyen par lequel on s'approche de lui et le moyen par lequel on lui rend grâce. Il ne nous appartient pas de choisir de faire ce que l'on veut faire, comme on veut faire. En matière d'adoration, en matière de louange, en matière d'action de grâce, Dieu impose. Dans l'Ancien Testament, la Bible dit que dans les Lévitiques 7, qu'il a donné des lois sur l'action de grâce. Donc, il dit, moi, je loue Dieu comme... Non, non, Dieu a donné des lois pour qu'on puisse s'approcher de lui. Comment on peut le faire? Et dans la Nouvelle Alliance, on comprend bien que Jésus-Christ doit être central dans notre adoration. C'est parce que Dieu a donné son Fils que nous avons tout ce que nous avons. L'apôtre Paul dit au 8e chapitre de l'Épître aux Romains, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, Dieu qui n'a pas épargné son propre Fils, en le livrant pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, il faut considérer ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour comprendre ce qu'il va faire pour nous. C'est en Christ seulement qu'on peut avoir tout ce que nous avons. Dieu nous voit au travers de l'œuvre qu'il a accomplie par Jésus-Christ. Alors c'est une chose qui est vraiment importante. L'apôtre Paul dit en Éphésiens chapitre 2, verset 18, il dit « Car par lui, par Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres, qu'est-ce que nous avons ? Accès auprès du Père dans un même esprit. » J'ai cité plusieurs versets comme ça pour vous faire voir que partout la Bible enseigne cette vérité. Et donc la première chose, parce que je ne sais pas à quel public, tout le public à quel je m'adresse ici, mais la première chose, la chose la plus importante qu'il y ait, c'est d'avoir, d'abord d'être certain d'avoir cette relation avec Dieu par Jésus-Christ. C'est-à-dire de connaître Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. D'avoir placé sa confiance en Jésus-Christ. De pouvoir dire oui, j'appartiens à Jésus-Christ. Je connais Dieu par Jésus-Christ. Je connais Dieu tel que Jésus-Christ l'a révélé. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Il faut cette première chose avant de pouvoir faire quoi que ce soit à l'égard de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Ça, c'était le premier point que je voudrais souligner. Le deuxième point, bon, ici, c'est que rendre grâce à Dieu témoigne de la foi en la providence de Dieu. Quand l'apôtre Paul dit « Rendez grâce en toutes choses », il veut dire que toute chose est une occasion de rendre grâce. Les bonnes choses et les mauvaises choses. Ça veut donc dire qu'avec ces bonnes et ces mauvaises, Dieu fait des choses qui sont bonnes. Et donc, il peut contrôler toutes choses. Ça s'appelle la providence de Dieu. La définition de providence, c'est ceci. C'est l'action par laquelle Dieu conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Ça, c'est le sens de ce mot. Alors, avoir foi en la providence de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire déjà avoir foi ? Il n'y a que deux manières de marcher dans la vie. On marche par la foi ou par la vue. L'homme naturel marche par ce qu'il voit. Et c'est pour ça qu'ils disent souvent, moi je ne crois que ce que je vois. Même si il fait confiance à des choses qu'il ne voit pas quand même sans le voir. Mais la Bible appelle le croyant à vivre par la foi et non par la vue. C'est-à-dire à ne pas se laisser troubler par ce qui est apparent dans la vue des choses, mais à croire à ce que la Bible dit, même sur ce qui n'est pas apparent, et même quand les apparences semblent contredire la vérité biblique. Il dit que le croyant doit marcher avec cette foi-là dans la vérité. Et qu'est-ce que la foi ? Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ ? Par exemple, la foi requiert, quelqu'un disait trois choses. Premièrement, l'information. Il faut une information. Hein. C'est-à-dire un ensemble de données concernant Dieu, concernant Jésus-Christ, concernant le salut, concernant l'enfer. Ce sont des informations que la Bible, que tout à disposition de celui qui ouvre la Bible, il peut les voir, il peut les lire, n'est-ce pas ? Et puis, deuxième chose, après l'information, il faut l'assentiment. C'est-à-dire une adhésion à ces choses, une adhésion intellectuelle. Il faut croire dans ces informations. Okay ? C'est-à-dire, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il s'est incarné, qu'il a vécu sur la terre une vie sans péché, qu'il est mort comme substitut pour le péché. Je crois qu'il est ressuscité et qu'il est monté au ciel. Je peux croire que tout cela est vrai et néanmoins être perdu. Je peux croire, vous êtes des gens dans la rue, vous dites, est-ce que vous croyez que Dieu existe ? Vous diront, il y a des personnes qui diront oui. Est-ce que vous croyez qu'il est... Oui, je crois, oui. D'accord ? La Bible dit que les démons... Oui ? Est-ce qu'ils sont sauvés ? Ils ne seront jamais sauvés. Donc ce n'est pas parce que l'on croit intellectuellement à une vérité que l'on est sauvé. Donc il faut des informations pour pouvoir y croire. On peut croire intellectuellement, mais il faut encore plus que cela. Il faut ce que l'on appelle la confiance. C'est-à-dire le fait de s'appuyer sur cette vérité pour y conformer sa vie et vivre. Je crois que c'est vrai, mais maintenant je vais y conformer ma vie. D'accord ? Ça s'appelle ici la confiance. Ce que Hébreu dit par exemple concernant Noé, il dit ceci, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'il ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit l'arche. Il croit des choses qu'il ne voit pas, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il prend Dieu au mot et il construit l'arche, il obéit. Parce qu'il dit, voilà, il va se passer, même s'il ne voit pas ces choses. Il n'a pas dit, oui, je crois, mais bon, mais j'attends de voir, et puis une fois que ça sera là, je vais construire. Non, il le fait même quand ça n'est pas là. Donc Noé prend Dieu au sérieux et il construit l'arche. Pour vous donner une petite illustration de cela, vous connaissez peut-être, hein, on parlait de cet homme qui était un funambule, c'est ça, les gars qui marchent sur les fils, là. Et il était là, il dit, croyez-vous que je puisse faire l'aller-retour comme ça, les yeux fermés? Oui, oui, tout le monde dit, ouais, tu peux. Et il le fait, il fait l'aller-retour, les yeux fermés, c'est revient. Et puis il dit, croyez-vous que je puisse prendre une brouette, mettre sur le fil, et puis marcher avec? Les gens, ils disent, oui, tu peux le faire. Les yeux fermés, oui, tu peux le faire. Il fait, il prend la brouette, il marche, les yeux fermés avec, il fait aller-retour, il revient. Ah, tout le monde applaudit. Il dit, croyez-vous que je puisse mettre quelqu'un dans la brouette, aller sur le fil avec les yeux fermés et faire aller-retour? Et les gens, ils disent, oui, nous croyons. Et puis, il dit, qui c'est qui fait venir? Et là, il n'y a personne qui lève le doigt. D'accord? Vous comprenez? Et c'est ça, un peu, la différence entre avoir l'information, croire à l'information, et puis faire confiance. Quand on fait confiance, on se jette dans la vérité. Ok? Et lorsque l'apôtre Paul dit, rendez grâce en toutes choses à Dieu, c'est à votre égard la volonté de Jésus-Christ. Il dit, il faut croire que Dieu est souverain sur toutes choses et puis il faut vous jeter dans cette vérité-là. Et il faut y vivre et il faut en vivre. C'est ce qu'il explique. Donc, rendre grâce à Dieu en toutes choses témoigne vraiment de la foi en la providence de Dieu. On rend grâce à Dieu, non parce que telle chose est bonne, puis on ne rend pas grâce quand elle est mauvaise, mais on rend grâce et on fait confiance à Dieu, on fait confiance à sa capacité de conduire toutes choses comme il a prévu de les conduire. Ce qu'on appelle ici la providence de Dieu. Romains chapitre 6, verset 26 dit ceci, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Le croyant, il sait ces choses et puis il croit en ces choses. Il place sa confiance en elles. Et ça veut dire quoi? La version Darby dit, nous savons que toutes choses travaillent ensemble, coopèrent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire, c'est pas simplement qu'il y a des bonnes choses, qu'il y a des mauvaises choses. Et puis, non, mais il dit que Dieu est capable de prendre les bonnes, de prendre les mauvaises et de les faire travailler ensemble pour accomplir son œuvre. Et pour cela, vous pouvez lui rendre grâce, vous pouvez lui rendre gloire, parce qu'il est capable de faire de telles choses. Vous pouvez lui rendre grâce donc en toutes choses, parce qu'il est capable de faire travailler toutes choses. Voyons un exemple, et je vais rester sur ce texte-là tout jusqu'à la fin du message, mais dans Philippiens. L'épître aux Philippiens est une épître qui nous laisse entrevoir vraiment le cœur de l'apôtre Paul pour l'église de Philippe. Et si vous lisez bien l'épître aux Philippiens, vous ne pourrez pas éviter le thème. Même si, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire? Quel est le thème de l'épître aux Philippiens? La joie. La joie. Vous ne pouvez pas rater cela quand vous lisez l'épître aux Philippiens. Plus de 16 fois, elle n'est pas longue à lire, hein, elle est très très courte, 4 chapitres, 104 versets, je crois. Mais vous allez voir la joie partout dans cette épître. Il y a un des versets clés que vous connaissez, l'apôtre Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Non seulement il parle de sa propre joie, mais il y a un appel à la joie qu'il fait aussi aux Philippiens, et puis bien sûr à nous. Mais ce qui est paradoxal dans cette épître, c'est que la personne qui écrit ça, c'est l'apôtre Paul, il est en prison à Rome. Il est en prison à Rome. Et il incite, il exhorte les Philippiens à la joie. Il commence son épître en disant, je rends grâce, il remercie Dieu, la gratitude, et puis
Au chapitre 4, il arrive, il demande aux Philippiens, il dit, ne vous inquiétez pas. Il dit, au contraire, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Il rend grâce, il demande aux Philippiens de rendre grâce. Et entre les deux, vous savez ce qu'il fait? Eh bien, il va leur raconter comment il faut considérer la situation dans laquelle il est passé. Et ce que je vous invite à regarder dans Philippiens chapitre 1, Philippiens chapitre 1, on va lire deux versets, on n'a pas de temps pour tout voir, mais deux versets, Philippiens chapitre 1, versets 12, 13 et 14, trois versets, donc 12, 13 et 14. L'apôtre Paul dit ceci, il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole de Dieu. Alors, c'est intéressant de considérer cela, parce que l'apôtre Paul dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Si on nous demandait d'imaginer ce qui est arrivé à Paul, eh bien on aurait dit, waouh, il a eu un public extrêmement disposé à l'écoute de la parole de Dieu, il a dû avoir plein de choses positives, etc. Je vous propose juste un petit récapitulatif très rapide de ce qui lui est arrivé. À la fin de son troisième voyage missionnaire, l'apôtre Paul quitte la Grèce et il retourne à Jérusalem. Et jusque-là, il dit que sa vie n'a été que des difficultés. Si vous lisez 2 Corinthiens 11, verset 23, il montre les difficultés qu'il a eues. Et on n'aurait pas aimé être à sa place. Sur le trajet qui le mène vers Jérusalem, il apprend que sa fin approche. Et lui-même, il dit, maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Il dit, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens, des tribulations m'attendent. Voilà l'état d'esprit lequel il va à Jérusalem. Une fois qu'il arrive à Jérusalem, il est arrêté au bout de 7 jours. Il est traîné à l'extérieur pour être tué sur le champ. Et il est sauvé in extremis par des soldats romains. Acte chapitre 21, vous pouvez lire cela. Et le lendemain encore, il doit être enlevé du milieu du Sanhédrin. Et il y a plus tard 40 personnes qui montent un complot pour le tuer. Et donc, ce complot est déjoué. On va le transférer à Césarée. À Césarée, il reste en prison pendant 2 ans. 2 ans. Et ensuite, il y a une sorte de procès qui se passe. Et puis lui, il demande à être jugé devant César. Donc, il va partir pour Rome. Et le voyage jusqu'à Rome, eh bien, il monte sur un bateau. Et vous savez ce qui est arrivé sur le bateau? Il a eu un naufrage. Il y a eu un naufrage sur le bateau. On sait comment psychologiquement et physiquement, cela peut épuiser les gens. Il arrive, donc, enchaîné à Rome. Parce qu'il a attaché un soldat. Et vous savez, la première chose qu'il fait quand il arrive à Rome, c'est quoi? Quand il voit des gens qui viennent à leur rencontre, la Bible dit, il rend grâce à Dieu et il est encouragé. La Bible dit, il rendit grâce à Dieu et il prit courage. Acte chapitre 28 et verset 15. Voilà la disposition d'état de l'apôtre, d'esprit de l'apôtre Paul. Il rendit grâce à Dieu et il prit courage. Et donc, quand il dit à l'église de Philippe, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé, il ne parle pas de choses agréables dans sa vie. Il parle du lot de difficultés qu'il a, le fait qu'il est emprisonné maintenant à Rome depuis quelque temps avec un soldat, qui le garde 24 heures sur 24. Il dit, je veux que vous sachiez que ça, eh bien, ça a contribué au progrès de l'évangile. Ça n'a pas freiné l'évangile. Donc, ne vous découragez pas, ne vous inquiétez pas, priez, rendez grâce à Dieu. Parce que l'évangile se propage, pas malgré la situation. L'évangile se propage grâce à cette situation. Et c'est comme cela qu'il faut le prendre. Parce que si on pense que l'évangile se propage grâce à cela, on rend à Dieu grâce pour cela. Mais si on pense que l'évangile se propage en dépit de... Eh bien, on va voir les situations pas comme des situations dans lesquelles on peut rendre grâce à Dieu. C'est ce que fait donc l'apôtre Paul. Ce que Paul dit aux Philippiens en substance, c'est quoi? C'est que les circonstances difficiles sont les servantes de Dieu. Les circonstances difficiles sont les servantes de Dieu pour accomplir son plan. Et il dit, c'est plutôt ainsi qu'il faut le voir. J'aime bien ce verset, verset 12, regardez bien, il dit, je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a plutôt, il y a une tendance naturelle qui pourrait pousser à croire que tout ça c'est négatif, mais il dit, mais non, voilà plutôt comment il faut regarder les choses, du point de vue de la providence de Dieu, et pas du point de vue seulement humain. Il y a un auteur qui a dit que dans toutes les afflictions, il est réconfortant de savoir que Dieu y a sa main. C'est un puritain du nom de Thomas Watson. Dans toutes les afflictions, il est réconfortant de savoir que Dieu a sa main. C'est exactement ce que Joseph, n'est-ce pas, a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans le pays d'Égypte. En Genèse 45, on lit ceci, versets 7 et 5, il dit, je crois, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. » Il dit bien, « Vous avez vendu pour que je sois emmené en Égypte. » Mais il dit, « Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. » Et vous allez lire le livre de Genèse, vous allez voir, lisez l'histoire. La Bible dit que ses frères ont fomenté dans leur esprit ce qu'ils vont faire. Ils ont médité sur ce qu'ils vont faire. Ils l'ont fait, ils ont mis en œuvre tous les moyens pour le faire. Et ils l'ont fait. Et Joseph, après avoir passé le temps, la prison, etc., il dit, c'est pas vous qui m'avez envoyé ici. C'est Dieu. Voilà. Il dit là, ici, c'est pas vous qui m'avez envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. Vous aviez médité de me faire le mal. Et ils l'ont vraiment médité. Mais Dieu l'a changé en bien. Et rappelez-vous aussi de l'exemple de Job, qui a tout perdu. Job dit quoi? Il dit, l'Éternel a donné. Loué soit Dieu. L'Éternel a béni. Il dit, loué soit Dieu. Et quelqu'un a fait remarquer, Job n'a pas dit, l'Éternel a donné, le diable a ôté. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Il ajoute que le nom est là, il y a l'action de grâce, la louange, la reconnaissance, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'il croit en la providence de Dieu, au fait que Dieu coordonne toutes choses pour les faire travailler ensemble. Mais j'aimerais aller un tout petit peu plus loin. J'aimerais voir aussi que rendre grâce en toutes choses témoigne de la foi, non seulement la providence de Dieu, mais de la puissance de Dieu pour produire du bien avec les circonstances difficiles. Rendre grâce à Dieu, c'est vraiment témoigner de notre foi dans la puissance de Dieu d'utiliser même les choses négatives pour produire du bien. C'est exactement ce que l'apôtre Paul dit dans notre passage. Reprenons-le, Philippiens chapitre 2, verset 12. Si on nous avait demandé d'indiquer ce qu'il faut comme circonstance pour que l'évangile se propage. Nous aurions dit peut-être qu'il faut des moyens financiers. Il faut des moyens humains. Nous aurions dit qu'il faut de la mobilité pour pouvoir aller à droite et à gauche, n'est-ce pas? Il faut un minimum de liberté ici pour le faire. Et Dieu montre ici que pour que l'évangile se propage à Rome, il faut la captivité de l'apôtre. Il faut que l'apôtre captif. Parce que Dieu n'utilise pas les moyens, ne voit pas les choses comme nous le voyons. Je veux que vous sachiez, frère, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'évangile. L'évangile a progressé par ma captivité, par mes difficultés. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Le mot progresser ici, ça traduit celui de se frayer un chemin. À l'époque, c'était un terme qui était un terme militaire et qui était employé pour parler de ceux qui étaient envoyés en première ligne et puis qui déblayaient le chemin. Les éclaireurs un peu pour faire le chemin. Donc il dit, voilà, ce qui m'est arrivé, ça a été utilisé par Dieu pour déblayer le chemin pour le progrès de l'Évangile. Donc, d'un point de vue humain, cette situation très difficile était pour nous quelque chose qui pourrait plutôt contribuer au découragement. Paul dit non, ça a contribué au progrès de l'Évangile. Pourquoi? Parce que les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage de Christ dans les chrétiens. Je redis cela. Les circonstances difficiles permettent de révéler plus clairement le témoignage chrétien, de Christ dans le chrétien. Paul dit, en effet, verset 13, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens enchaînés. Philippiens 1, 13, donc je le relis dans une autre traduction, Darby, il dit, en sorte que mes liens sont devenus manifestes comme étant en Christ. Donc, ça, il était clair maintenant pour les gens que cet homme est en prison, non pas parce qu'il a commis un délit, non pas parce qu'il a volé, non pas parce qu'il a violé quelqu'un, mais il est en prison à cause d'une personne, à cause de Jésus-Christ. Et il dit, c'est devenu manifeste, c'est devenu clair maintenant pour les gens que c'est à cause de Christ que je suis en prison. Ici. C'est-à-dire que dans la contrainte de la détention, dans la douleur, de la jalousie, parce qu'avant il parle de la jalousie qu'il y avait à son égard, dans l'incertitude de son de l'issue de sa situation, il dit, je ne sais pas comment ça va être dans peu de temps, Paul a rendu témoignage à Jésus-Christ. Comme dans la prison de Philippe, vous vous rappelez, au début, quand il a fondé cette église, ça a commencé par la prison. Et qu'est-ce qu'il a fait avec Silas quand ils étaient dans la prison? Ils ont chanté les louanges de Dieu. Et la Bible dit, et les prisonniers les entendaient. C'est-à-dire que l'action de grâce était publique au sein de la situation. Et on sait tout ce que cela a apporté comme fruit par la suite. C'est dans la pression, chers frères et sœurs, chers amis, que se révèle plus clairement ce que nous sommes vraiment. Quand les situations sont faciles, c'est facile de dire « Gloire à Dieu, Alléluia, je t'aime Seigneur, je te loue de tout mon cœur, tu es grand, tu es merveilleux. » On est comme cela, n'est-ce pas? Mais dans la pression, se révèle plus clairement ce que nous sommes. Qu'est-ce que Satan demande à Dieu concernant Job? Écoutez cela, il lui dit ceci. Il lui dit, Dieu dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? C'est un homme intègre. Et Satan, il dit quoi? Satan, il dit à Dieu, la pomme, il dit, est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Tu lui fais du bien. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison, tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Ses troupeaux couvrent le pays. Il est riche, hyper riche ce type. C'est pas difficile d'être intègre. Non, il est riche. Mais étends, écoutez ce qu'il dit à Dieu, mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit chiche. Il le fait. Il ne touche pas à sa vie. Il peut balayer tout ce qu'il a. Et Satan, à la seconde, lui a eu l'autorisation, vous inquiétez pas, hein, il n'a pas pris le temps de s'habiller, il est allé, hop, boum, terminé, hein, et il est parti, quoi. Il a attaqué, mais de plein fouet. Et vous savez, ce que le diable dit n'est pas dénué de sens, hein. C'est parce qu'il connaît le cœur humain. Il sait qu'il est capable de dire amen, alléluia, quand tout va bien. Mais quand la souffrance est là, et quand les circonstances difficiles l'enveloppent, c'est une autre question. On en parlait hier soir, je crois, hein, de personnes qui disent « Ah, moi, je ne veux plus entendre parler de Dieu. Hein? » Pourquoi? Parce que s'il était vraiment bon, il n'aurait pas permis que mon mari ou que mon fils ou que quelqu'un de ma famille meure ou disparaisse. Mais la Bible dit qu'en tout cela, Job ne pécha point. Et il y a, chers frères et sœurs, la Bible, beaucoup d'exhortations à tenir ferme toujours dans la difficulté. Je n'ai pas trouvé d'exhortation à tenir ferme quand tout va bien. Vous savez, vous êtes riche, vous avez tous tout le confort, 3-4 voitures, D'accord, les enfants, ils sont bien, tout ce qu'il y a de mieux. Alors, tenez ferme, tenez bon. Hein? On ne trouve pas ça. Je n'ai pas trouvé en tout cas. Peut-être que je n'ai pas trouvé. Mais par contre, je trouve beaucoup d'exhortations où il est question de tenir ferme lorsque tout va mal, dans l'adversité. Écoutez ceci, ce que Pierre dit aux serviteurs.
Alors, on va dire que les ouvriers, on va remettre ça à notre époque, les employés,
il dit ceci. 1 Pierre 2,18. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, circonstances favorables, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Tu es soumis à celui qui est non seulement, ça c'est facile. Ah, le patron, il a une augmentation tous les mois. Ce patron-là, il est génial. Hein? Mais celui qui est d'un caractère difficile, tu es soumis aussi à celui-là. Pourquoi est-ce qu'il précise cela? Parce que c'est précisément avec le maître d'un caractère difficile que va surgir le plus clairement notre propre caractère. Toujours. C'est toujours dans la situation difficile que notre propre caractère surgit. D'accord? Vous faites du bien à quelqu'un, vous lui tenez la porte, ah merci, etc. Puis même montez-lui sous les pieds, vous allez voir ce qui se passe. Il y a quelque chose qui va sortir parfois. Hein? Et ce qui sort naturellement, c'est ce qu'il y a au fond, véritablement, vraiment. Et ça, c'est une chose importante. Le chrétien et le non-chrétien peuvent avoir la même attitude dans des circonstances faciles. Par contre, il y a une différence qui apparaît souvent très nettement entre le véritable chrétien et le non-chrétien lorsque les circonstances sont vraiment difficiles. Il loue Dieu parce qu'il croit à sa souveraineté et à sa providence. Ainsi, Dieu utilise les circonstances difficiles pour mettre plus clairement en valeur la vie de Christ dans le croyant. Paul dit, à cause de mes liens, il est manifeste que je suis en Christ. Mais, deuxième vérité que l'on peut souligner ici, c'est que Dieu utilise aussi les circonstances difficiles. Pourquoi? Parce que les circonstances difficiles permettent d'encourager plus facilement d'autres chrétiens aussi. Paul, c'est ce qu'il dit, regardez, verset 14, il dit, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par ma liberté. C'est ce qui est écrit? On n'a pas mis? 14, le verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par quoi? Par mes liens. Par mon enchaînement, par ma prison, par le fait que j'ai des chaînes. Ils sont encouragés. Mais comment est-ce que des liens peuvent encourager quelqu'un? On prie pour qu'il soit libre, et encouragé s'il est libéré. Paul dit, la plupart des frères sont encouragés par mes liens. Quel était l'objectif de l'ennemi, bien sûr, de cette situation? C'est de décourager les autres chrétiens. Si on arrête quelqu'un comme Paul, ah ben, les autres, c'était un fer de lance, Paul. Hein, c'était, je ne sais pas comment il était, mais ça devait être une montagne. Hein, je pense que quand il était lancé. Hein, il avait peur de rien pour l'évangile. Et si on met cet homme-là en prison, ben voilà. Les autres seront découragés. Mais Paul dit non, c'est le contraire qui s'est produit ici. Comment est-ce que ces chaînes peuvent être un encouragement à l'évangélisation pour les autres? Eh bien, c'est l'attitude de Paul dans cette situation qui a été un encouragement. Ce n'est pas les chaînes, le morceau de fer qui a été un encouragement, le lien qui a été un encouragement. Mais c'est l'attitude de Paul avec ces liens-là. Ils ont regardé comment il a vécu étant dans les liens, et ça a été un encouragement, bien sûr, pour eux. L'attitude dans les circonstances difficiles ont plus d'impact et sont plus efficaces à l'encouragement, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez l'histoire des chrétiens persécutés, parfois ça nous secoue. Hein? On se dit, je devrais me secouer un peu. Parce que là, j'ai pas d'entrave, pas de chaîne, on va pas me mettre en prison si je me mets à parler de l'évangile sur la rue, on va pas... ici, en France en tout cas. Mais quand on voit d'autres chrétiens qui subissent ça, et leur attitude au sein de cette souffrance, même des fois on voit même la propagation de l'évangile dans ces pays où il y a de la persécution, cela nous donne un coup de fouet normalement. Ça nous donne un coup de fouet. D'accord? Lorsqu'on voit, vous avez peut-être déjà fait l'expérience d'aller visiter quelqu'un qui est malade, un chrétien mûr, mature, mais qui est cloué sur un lit d'hôpital. Vous arrivez, vous dites, il faut que j'aille voir ce frère, c'est sûr que je vais l'encourager dans sa situation. Puis vous arrivez, là,
Et puis vous vous asseyez, vous écoutez, c'est vous qui êtes encouragé parce que.
Et vous dites, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Hein? Et pourquoi? Parce que quand on voit l'attitude d'un chrétien mûr qui loue Dieu au sein d'une situation difficile, cela a une répercussion sur notre propre foi. Et Dieu, il sait ces choses. Et il permet que des gens comme Paul passent par des situations difficiles. Et il permettra peut-être aussi que nous passions par des situations difficiles pour nous apprendre des choses, mais aussi pour apprendre des choses aux autres. Et Dieu utilise enfin les circonstances difficiles afin de que nous puissions faire la différence, je pense, plutôt afin que nous puissions ancrer notre joie dans l'Évangile et non dans les circonstances. L'apôtre Paul dit, l'Évangile est en Christ, hein, au lieu des circonstances. L'apôtre Paul dit ici, il est clair, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Il faut entendre l'Évangile progresse. Les amis, oui, vous êtes tristes. L'Évangile progresse. Ah, mais Paul, comment tu fais? L'Évangile progresse. C'est ça qui doit vous rendre joyeux. Les gens, il y aura plus de gens qui vont finir par louer Dieu. Il y aura des gens qui vont lui rendre grâce parce que la grâce de Dieu se propage. Alors, si la situation telle qu'elle est, eh bien, gloire à Dieu. Parce que l'Évangile progresse par ce moyen-là. Et ce qui rend les gens heureux, ce sont souvent les circonstances dites heureuses, n'est-ce pas? Les gens vivent au rythme du climat, du travail, du montant de la retraite, des amitiés qui se font, qui se défont. Mais Dieu fait parfois vraiment assombrir, je crois, nos circonstances, afin d'attacher notre joie à ce qui a de la vraie valeur. De la vraie valeur. Pour l'apôtre Paul, il savait vivre dans l'abondance, il l'a dit, hein, et je sais vivre aussi dans la disette. Donc il n'était pas sujet à ces circonstances-là. Et sa situation est un exemple pour les Philippiens. C'est un appel à se réjouir du succès de l'Évangile. Je termine avec quelques conclusions. Quel regard avons-nous sur nos situations, nos circonstances difficiles? Il me semble que, naturellement, ce que nous cherchons en premier lieu, c'est de focaliser l'attention sur notre adversité. Voilà ce que je souffre. Voilà comment je suis. J'ai mal à ceci. J'ai mal à cela. Je ne peux plus faire ceci. Oh, mais pourquoi Dieu permet ceci? Ah, mais pourquoi Dieu permet cela? Pourtant, je vais à l'église. Pourtant, je fais ceci. Et on peut se plaindre de toutes les situations difficiles que l'on a. On juge que les circonstances difficiles sont incompatibles, même parfois avec le fait d'être un enfant de Dieu. Il y a des gens qui disent ça. Mais si tu es un chrétien, tu devrais avoir la foi. Et Dieu, c'est parce que tu n'as pas assez de foi que tu vis dans cette situation difficile. Mais la Bible dit non. L'apôtre Paul en est ici la preuve. Parfois, on est tenté de mettre même la bonté de Dieu en doute. Ouais. D'autres fois, on se met en colère contre Dieu. On estime que c'est injuste. C'est injuste. Celui qui ne loue pas Dieu, il dort jusqu'à midi le dimanche matin, alors que moi je suis déjà au culte. Eh bien, tout va bien pour lui. Tout va bien pour lui. Hein? Comme disait le psalmiste, il a de l'embonpoint même. Hein? Il est bien, il mange bien, il a tout ce qu'il lui faut. Et moi, voilà, j'ai rien. Pauvreté, etc., etc. Comme ça qu'on réagit parfois. Nos réactions face aux difficultés dépendent vraiment, chers frères et sœurs, de notre compréhension du but que Dieu a dans la souffrance et de la souveraineté de Dieu sur toutes choses. Si nous comprenons ça, nous pouvons rendre grâce à Dieu dans toutes choses. Dieu est souverain sur la fin et sur les moyens. Dieu est souverain sur la fin et sur les moyens. Paul avait prévu d'aller à Rome. Et quand il écrit aux Romains dans l'Épître, il dit quoi? J'espère vous voir. D'accord? Et il pensait aller quelque part, je pense, comme nous aurions fait, acheter son billet, prendre le bateau, préparer le voyage, arriver, etc. Il est arrivé à Rome. Mais pas comme il avait prévu. Pas du tout comme il avait prévu. C'était la volonté qu'il arrive de Dieu qu'il arrive à Rome. Mais c'était la volonté de Dieu qu'il arrive à Rome comme il est arrivé à Rome. Dieu est à la fois souverain sur la fin et sur les moyens. Et nous avons besoin d'apprendre que Dieu fait tout contribuer à sa gloire. Deuxième chose que je voudrais souligner dans cette conclusion, c'est que ce qui influencera le plus les autres autour de nous, ce ne sera pas notre érudition ou notre compétence dans un domaine ou dans un autre, ou notre, le confort que Dieu nous donne, confort matériel, mais notre attitude de reconnaissance à Dieu dans la souffrance et dans les afflictions.
Les gens apprendront plus de nous lorsqu'ils nous verront vivre les moments difficiles. Ce que le passage de Paul nous enseigne. Parce que le caractère chrétien va surgir davantage sur ce terreau-là. Paul dit, mes liens ont permis les progrès de l'évangile et ont donné de l'assurance pour évangéliser aux autres, puisqu'ils étaient libres pour évangéliser. Comment est-ce que nous réagissons au sein de nos circonstances difficiles? Le témoignage de Christ, est-ce qu'il surgit de nos réactions face à la maladie, à la perte d'un être cher? Est-ce que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ apparaissent lorsque quelqu'un m'offense, par exemple? Ce qui a permis le progrès de l'Évangile, ce n'est pas la captivité en elle-même, mais c'est l'attitude constante de Paul à louer Dieu dans cette situation et à lui rendre grâce. Et puis dernièrement, je voulais souligner que Dieu est plus intéressé par notre transformation à l'image de son Fils qu'à notre confort. Ce que Dieu poursuit, l'apôtre Paul le dit, c'est que nous soyons transformés à l'image de son Fils. Et il utilisera ce qui est dans sa sagesse utilisée pour arriver à cette fin-là. Même si cela devrait être la souffrance. Et nous devons louer pour sa grande sagesse. Dieu ne nous a pas sauvés pour être des prédicateurs. Il ne nous a pas sauvés pour être des musiciens, des pianistes, des chanteurs, des pasteurs. Dieu ne nous sauve pas pour une fonction. Il nous sauve pour être des adorateurs.
Amen.
La Bible dit que c'est là ce que Dieu cherche. Des gens qui vont le louer et lui rendre grâce éternellement. Et pour le faire, il nous fait parfois passer par le creuset. Et donc, que le Seigneur nous aide et que vraiment nous soyons encouragés et que nous demandons la grâce de mettre en pratique ce commandement que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens 5:18, rendre grâce à Dieu pour toutes choses, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous en Jésus-Christ. Et sa volonté pour nous est bonne, agréable et parfaite. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.